Radio Livre Dormir.
Radio Livre Dormir.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
Le matin, de 8h
à 10h, le jeudi matin.
Radio Livre ou Dormir.
Retransmission de rencontres littéraires.
92.2
sur Canal Sud.
92.2.
On va vous parler de deux livres aujourd'hui. Le livre-livre, c'est un livre qui a plusieurs mains et on a le droit à 6 entrées différentes sur le thème de la police. 6 manières, 6 regards posés. Alors des regards ou analyses, hein, etc. Donc on verra ce que David nous dira de ce qu'il a écrit dans ce bouquin-là. Amal nous parlera aussi de son expérience qu'elle décrit dans le livre. Et je vous invite à le lire, pas parce que j'ai des bouquins à vendre via Terra Nova, mais parce que c'est intéressant, parce qu'on a des points de vue assez différents. Vous verrez en particulier le texte qui a écrit Eric Cazan, qui est le directeur responsable de l'édition de La Fabrique, qui, en fin de compte, lui, dit « la police avec nous ». Ce qui, bon, tout explique que si jamais, tant qu'on ne fera pas basculer les forces de l'ordre dans notre camp, l'histoire nous montre qu'on n'aura pas la possibilité de changer réellement le monde. Donc, je vous laisse pour vous montrer un peu la diversité des points de vue qu'il y a dans ce livre. Donc, le premier livre a été écrit à plusieurs mains. Et le second, donc, c'est celui de Paul Rocher, qui, avec son titre « Gazer, mutiler, soumettre », dit beaucoup de choses. Puisque David, tu risques de partir un petit peu avant la fin, je vais te donner la parole. Moi, j'ai été... Ton bouquin est en continuité, en fin de compte, hein, de ce que tu as déjà écrit, de tout le travail que tu fais. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est où est-ce que tu en es dans tes réflexions, toi, aujourd'hui, par rapport à la police, à partir du travail important que tu as fait avec Allo Place Beauvau. Et en gros, globalement, tu remets quand même en valeur dans ce bouquin-là l'importance de l'irruption, je dirais, de la vidéo portative, enfin, des smartphones, des portables, de la tout, dans ce qui vient de se passer, dans la séquence qui vient de se passer. Et pas uniquement en France, hein, d'ailleurs, hein, c'est sur la planète entière que les choses se passent comme ça. On peut peut-être prendre cette porte d'entrée pour commencer à échanger, si tu le veux bien. Et puis après, vogue la galère, comme dirait l'autre. Donc, tu as la parole.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes nombreux. Alors effectivement, mon texte ouvre en fait le recueil. Il faut dire que dans ce recueil, il y a des textes qui sont des rééditions. Le texte de Lordon, c'est une réédition en fait de son blog. D'autres textes ont déjà été publiés et puis la plupart sont inédits. Et donc quand La Fabrique m'a demandé un texte, ce qui m'avait semblé évident, c'était de faire un petit point d'étape, si je puis dire, sur ce que j'appelle la camérisation du monde. C'est-à-dire le fait, effectivement, que vous le savez tous, puisque certains d'entre vous, je reconnais des têtes, des visages, le font, c'est-à-dire le fait de filmer la police, de documenter, etc. Donc ici, j'allais dire, dans cette cour, on ne découvre pas les violences policières, mais en revanche, le fait de les documenter, de les sourcer, de les filmer, de les photographier, de les attester, a fait que effectivement il y a l'irruption tout d'un coup dans l'espace public en dehors au-delà du cercle militant de la question policière. Donc mon texte il est là-dessus. Je repars des travaux d'un chercheur canadien qui il y a une dizaine d'années avait mis en place le concept de sous-veillance, donc une sorte de panoptique inversée, d'inversion de la surveillance en sous-veillance. Et à partir de là, voilà, je fais un petit peu l'historique du fait de filmer la police. Et le premier cas, en fait, le plus important, c'est Rodney King, évidemment, à Los Angeles. Ça démarre là, en fait. Et puis ensuite, il y a une sorte de traversée du désert. Et aujourd'hui, il y a l'irruption des caméras. Donc c'est de ça dont je parle, sous l'angle, de mon point de vue, positif. Évidemment, il y a un angle négatif, qui est que si tout le monde filme tout le monde, c'est une autosurveillance généralisée qui est absolument catastrophique, on est bien d'accord. Mais là, c'est le point de vue du fait que tout d'un coup, tout le monde peut recevoir les coups de matraque et pas simplement les pavés. Parce que jusqu'ici, grosso modo, les images, la documentation était faite côté police, sous la protection des boucliers de police, pour tout un tas de raisons. Et aujourd'hui, on a le champ et le contre-champ. Voilà, le texte, il est là-dessus et sur l'idée qu'il faut se battre pied à pied pour que ça reste possible. Et comme vous le savez, Gérald Darmanin, qui a dû aller à l'imprimerie, finalement a décidé, lui, de faire ce que Castaner lui-même ne faisait pas, c'est dire quand même comment on s'enfonce, puisque Castaner et Nunez avaient à plusieurs reprises refusé l'idée d'obliger le floutage des policiers. Comme vous le savez sans doute, il y a 2-3 jours, de son chapeau, Gérald Darmanin a sorti l'idée, sous la pression des syndicats, et d'ailleurs c'est ce qui est à noter, c'est que c'est un syndicat dit de gauche, l'UNSA, qui est très en pointe sur cette question-là. C'est pas forcément Synergie et autres, Alliance, SGP, etc. C'est l'UNSA. Et donc l'idée, le ministre est assez d'accord sur l'idée qu'il faudrait obliger médias et réseaux sociaux à flouter les forces de l'ordre dans le cadre de leurs activités, de leurs pratiques. Voilà. Donc le bouquin, le chapitre, il est sur ça.
Mais en route, au-delà de tout, qui est peut-être pour lancer aussi le débat et pour revenir au problème de la répression policière, j'ai bien aimé un petit paragraphe dans le bouquin dans lequel tu parles des caractéristiques de la répression telle qu'on la voit aujourd'hui, telle qu'on la vit, et tu l'as fait en 5 points en fin de compte, qui recoupent beaucoup de choses que nous constatons les uns et les autres. Le premier point, c'est la militarisation de la répression. On va en parler avec Paul tout à l'heure dans son bouquin. C'est la déprofessionnalisation avec l'intervention dans la rue de corps de policiers non formés au maintien de l'ordre, les BAQE spécialement qu'on connaît intimement à Toulouse, on va dire. La désinhibition par rapport à la répression, par rapport à l'usage de la violence. Pareil, ça recoupe tes analyses à toi. La judiciarisation. D'ailleurs, vous savez qu'aujourd'hui, la répression, ce n'est pas le moment où vous recevez le coup de matraque. C'est avant, quand on vous identifie via la vidéosurveillance et qu'on vous empêche de venir manifester. Et c'est après qu'on vous envoie en comparution immédiate. Par contre, la violence policière, elle est partout. Elle est dans ce champ-là. Et le dernier point que tu parles, c'est la politisation assumée de la répression. Et ces 5 points dressent bien un paysage, quand même, globalement, de ce que c'est que l'évolution de la répression, du maintien de l'ordre en France aujourd'hui.
Oui, alors ça, très très franchement, ce petit résumé, si tu veux, je l'ai fait parce que j'avais compris par la fabrique que mon texte était le premier, donc c'est un peu pour, comme on dit au Québec où j'ai vécu, mettre la table et permettre en fait aux autres textes derrière de rentrer un peu dans les détails de ça. Mais effectivement, ces 5 points-là sont, de mon point de vue, ce qui se joue en ce moment. Quand je dis en ce moment, c'est depuis à peu près 3, 4, 5 ans, pour ce qui est des manifestations dites sociales. Parce qu'évidemment, il y a toute la question des quartiers populaires, etc., qui est beaucoup plus ancienne. Mais en tout cas, pour ce qui est de ce qu'on appelle le maintien de l'ordre communément social, par rapport à des mouvements sociaux, c'est effectivement ces points-là qui sont, à mon avis, le signe que nous sommes entrés dans autre chose, que ce qu'on nous a vendu pendant longtemps, plus ou moins d'ailleurs de manière mythifiée, légendaire ou réaliste, qui était le fameux maintien de l'ordre dit à la française. Donc là, aujourd'hui, effectivement, les choses ont totalement basculé. Et je pense que la caméra, le fait de documenter, permet aussi de ralentir ou de stopper ou de contrer ces points-là. Sur l'aspect politique du maintien de l'ordre, me semble-t-il, c'est surtout l'aspect politique de la police. Hein, c'est-à-dire que le maintien de l'ordre, c'est en soi la plus politique des polices. Hein, c'est la gestion de la cité. C'est le bras armé du pouvoir. Donc là-dessus, il n'y a aucun doute. Ce qui est notable en ce moment, c'est de voir certains syndicats de police, la plupart, qui sortent totalement en fait du mandat syndical, qui après tout est le leur, pour entrer dans la politique. Hein, c'est-à-dire que désormais, il y a les bons sociologues, les mauvais sociologues, les bons acteurs et les mauvais acteurs. Omar Sy, par exemple, est boycotté régulièrement sur Twitter. On pense qu'on veut de lui. C'est pas la question. Il est boycotté parce qu'il n'aurait plus le droit d'incarner, selon des syndicats de police, un rôle de policier sous prétexte qu'il a pris la défense du comité Adama. Donc là, on voit bien qu'on n'est plus dans du syndicalisme. On n'est plus dans du corporatisme. On est dans une police... de la pensée, finalement. Et donc, voilà, c'est vrai que je mets ces points-là pour dire que ce n'est pas parce qu'il y a une avancée, de mon point de vue, sur la documentation des pratiques violentes policières que c'est gagné, bien au contraire. C'est-à-dire qu'il y a ça comme avancée, et en face, il y a une machine absolument redoutable qui est en place.
Merci David. On va passer la parole à Paul Rocher, donc autour de ton livre. Tu parles beaucoup hein, dans ton bouquin, enfin beaucoup. Tu abordes le sujet de la notion, c'est peut-être par là qu'on peut démarrer, et en fin de compte, c'est pas ce que je t'ai dit tout à l'heure, mais j'aime bien l'esprit comme ça. La notion de vous savez, des armes non létales. Bon, un flingue ou un pistolet mitrailleur, tout le monde sait que vous tirez avec, que vous pouvez tuer à coup sûr. D'accord ? L'armement de la police française, je dis, qui est l'armement le plus... C'est la police la plus dotée en Europe hein, d'armes. Quand vous lirez le rapport de l'Observatoire des pratiques policières de Toulouse, vous verrez, on a repris un tableau de la carte là-dessus. La police française est la plus militarisée d'Europe, elle a doté en plus de moyens. Mais on dit que c'est des armes non létales. Le lanceur de balles de défense, ça tue pas. Ça éborgne éventuellement, ça casse des mâchoires, des crânes, mais ça ne tue pas, ou pas souvent en tous les cas. Donc cette logique des armes non létales, des grenades de désencerclement, etc. Et en fin de compte, cette non-létalité, en fin de compte, permet aux flics de se lâcher. En disant à la limite, puisque ça ne va pas tuer, ben, je peux utiliser mon LBD à volonté, tirer dans tous les sens. On l'a vu largement à Toulouse, hein, personne n'en doute. Donc voilà, donc on pourrait peut-être démarrer notre échange un peu sur cette notion de létalité des policiers qui se lâchent. Et après, je suis sûr que tu as plein de choses à nous dire.
Eh bien, merci. Merci pour l'invitation. Merci à la librairie Terra Nova. Alors, effectivement, le terme de non-létalité, en quelques années, tout le monde a compris ce que c'est à peu près. C'est les matraques, c'est les gaz lacrymo, c'est le LBD, c'est différents types de grenades. C'est donc un terme qui est devenu un peu central dans le maintien de l'ordre et qui interroge déjà en tant que tel. Parce qu'effectivement, qu'est-ce que c'est une arme non-létale ? C'est une arme qu'on définit comme étant une arme qui ne peut ni tuer ni blesser définitivement. Donc voilà, c'est ça que c'est censé faire. Et ce qui est important, ce qui devrait interroger tout de suite, c'est que là, on parle d'une arme sous ses caractéristiques techniques. Donc, par définition, ce serait impossible de tuer ou mutiler avec une telle arme. Et c'est très étrange, puisque bah, on sait tous et toutes que bah, finalement, une arme, elle est utilisée par un humain. Et que donc, en réalité, si on veut comprendre le fonctionnement d'une arme, il faut s'interroger sur ce que cette arme fait dans les mains d'un policier, d'un gendarme. Et c'est effectivement par là que j'ai commencé mon livre. Donc, l'idée que je mets en avant, c'est que finalement, on ne peut pas seulement se contenter de regarder, d'analyser les fins auxquelles une arme est utilisée. On pourrait dire, bah, effectivement, les armes létales, non létales sont utilisées pour réprimer la population. C'est vrai. Mais on s'arrête un peu trop tôt, puisque ce qu'il faut faire également, c'est de s'interroger sur la manière dont la disponibilité de l'arme façonne le comportement du tireur. Et là, on trouve du coup complètement autre chose que l'idée d'une arme non létale qui permettrait un maintien de l'ordre plus doux, plus éthique, plus humain. Donc finalement, on se retrouve à critiquer tout le discours qui entoure ces armes non létales. Et donc, quand on regarde, et c'est ça une idée force que je mets en avant dans mon livre, quand on regarde comment les forces de l'ordre utilisent leur armement non létal, on se rend compte que la disponibilité même des armes non létales ne conduit pas à un maintien de l'ordre plus doux, plus humain, mais au contraire à sa brutalisation. Alors j'ai mobilisé un certain nombre de données statistiques pour ça, parce qu'effectivement, le ministère de l'Intérieur fournit des chiffres sur le recours aux armes non létales. Alors ce sont des chiffres extrêmement incomplètes pour tout un tas de raisons, ce qui diffère d'ailleurs très très fortement par rapport aux chiffres que la police ou la préfecture communiquent sur les policiers blessés, le nombre de policiers mobilisés. Non, sur le recours aux armes non létales, comme sur le nombre de civils blessés, les chiffres sont très, très, très difficilement utilisables, mais on peut quand même les faire parler. Et donc même avec les chiffres qui sont totalement incomplets du ministère de l'Intérieur, qui d'ailleurs concernent uniquement du coup la police et pas la gendarmerie, même avec ces chiffres-là, on se rend compte qu'en 10 ans, entre 2009 et 2018, on a une multiplication par 9 du recours aux armes non létales. Et quand on regarde le recours au LBD, sur la même période, on a une augmentation phénoménale de 480 fois. Donc, on voit très clairement ici que finalement, le problème auquel on fait face, en quelque sorte, en tant que civil aujourd'hui en France, quand on a envie de se rendre en manifestation, c'est que les armes non létales encouragent les forces de l'ordre à tirer plus et à tirer plus vite. Donc c'est ça, cette idée-là, enfin, c'est une des idées que je développe dans mon livre. Je peux entrer un peu plus dans les détails par la suite.
Non, mais tu peux...
Je peux, ok. Alors, très bien. Alors, donc, on suggère effectivement aux membres des forces de l'ordre que les armes non létales, par nature, ne peuvent ni tuer ni mutiler. Donc, on leur suggère en quelque sorte qu'il n'y a aucun risque à prendre. Donc, on les déresponsabilise aussi des conséquences de leurs actes éventuels. Donc, il y a ce premier élément qui consiste à inciter les forces de l'ordre à tirer plus. Donc ça conduit à la brutalisation. Ça, c'est très important. Ensuite, quand on équipe les forces de l'ordre en armes non létales, on leur suggère également qu'ils peuvent gérer une situation par la force. Car c'est pour ça qu'on leur donne les armes. Donc plutôt que de recourir à des méthodes non violentes de résolution de conflits, on suggère aux forces de l'ordre, on les encourage à gérer des situations par la violence. Alors ça, c'est en quelque sorte l'effet que l'arme a sur les forces de l'ordre. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça suggère que finalement, tout le discours autour d'eux, il faut un meilleur encadrement, il faut une meilleure réglementation. Finalement, en fait, ça ne change pas le problème fondamental, puisque le problème fondamental, c'est la disponibilité de l'arme non létale. Donc ça, c'est un premier point. Et tout ce mécanisme que je viens de décrire, il est évidemment aggravé par quelque chose que vous connaissez sans doute, à savoir qu'il y a une impunité pour les forces de l'ordre. Ça, c'est un deuxième élément, en quelque sorte, qui encourage aussi le recours aux armes non létales, c'est qu'il y a une impunité mes co-intervenants ici font partie des personnes qui ont permis de montrer ça aux yeux de tout le monde. Et si on creuse un peu plus loin, souvent ce qu'on nous dit c'est oui, certes, les forces de l'ordre sont équipées en armement non létal, mais en même temps ils ont une formation. Ils sont des citoyens exemplaires, donc finalement pas besoin de s'inquiéter plus que ça. Et là, on peut s'appuyer sur la sociologie de la police pour apprendre un certain nombre de choses sur comment ça se passe à l'intérieur de la police. Alors premièrement, ce qu'on sait, c'est que Et ça rejoint un peu le point de départ. On sait que les armes non létales, en réalité, sont non létales à condition d'être utilisées en suivant des consignes très précises. Ces consignes-là, je les décris un peu dans le livre, mais grosso modo, pour le LBD, pour rendre ça un peu tangible, l'idée, c'est qu'il y a une situation de stand de tir. Donc, vous avez un tireur qui est statique, vous avez une cible qui est statique, vous avez une distance minimale qui sépare les deux. La situation est détendue, il n'y a pas de stress, la luminosité est bonne, et comme ça, le policier peut réfléchir et effectuer son tir. Évidemment, toutes ces conditions ne sont pas remplies dans la réalité du maintien de l'ordre, dans la réalité des manifestations. Donc ça, c'est un premier point qui rejoint encore l'arme. Mais si on creuse aussi du côté du comportement policier, ce qu'on voit, c'est qu'une majorité des policiers rejoignent ou décident de faire ce travail par une conception purement répressive de leur métier. Donc, pour simplifier, on pourrait dire que ces personnes-là ont un goût pour la violence. Ça ne va pas s'arranger généralement quand ils entrent en formation, puisque là se crée un esprit de corps extrêmement solide. Et bon, je vais pas parler plus longuement sur les liens entre l'extrême droite et la police, puisque ça, c'est assez connu. Je vais insister sur un autre point qui est assez bien documenté, mais beaucoup moins discuté dans le débat public, à savoir que les policiers, finalement, font aussi varier le recours à la violence en fonction du public auquel ils vont faire face. Donc, ce qu'on voit généralement, ce qu'on observe en France, mais aussi dans d'autres pays, c'est que les policiers ont un certain respect pour les agriculteurs. Ils ont aussi un certain respect, mais déjà un peu moins développé, pour les revendications classiques du mouvement ouvrier, de type revendications autour du pouvoir d'achat. Par contre, ce qu'ils n'aiment pas du tout, c'est ce qu'ils appellent les jeunes, les étudiants, les privilégiés, les casseurs. Et la dernière catégorie, celle de casseurs, elle est extrêmement importante puisque finalement tout le monde peut se retrouver catégorisé comme casseur. Et si vous faites partie donc de cette deuxième catégorie assez large et floue, eh ben, les policiers vont avoir tendance à utiliser beaucoup plus de violence contre vous. Donc là, on voit que finalement, il ne suffit pas de parler de violence policière du point de vue le pouvoir en place instrumentalise la police. Il faut aussi s'interroger sur l'autonomie, sur le pouvoir discrétionnaire de la police, puisque c'est elle qui décide, dans le cadre même du maintien de l'ordre, le recours à la violence. Et je pense que ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas sous-estimer, puisqu'elle peut être déterminante pour des individus qui font face à la police et qui subissent des violences.
Merci, Paul. Bienvenue à Amal Bentoussi, qui est à côté de moi, donc qui est une des co-autrices du livre « Police ». Amal, j'aimerais bien que tu arrives. Donc, ça va, tu es dans l'ambiance, c'est bon ? J'essaie de ne pas te prendre trop à froid quand même, mais moi, j'ai presque envie de démarrer par la première phrase de ton document, de ce que tu écris dans le livre, c'est « La violence policière est sidérante hein, ». Tu écris d'emblée. Après, tu expliques pourquoi tu es progressivement sorti de la sidération et tout ce qui s'est passé derrière, mais j'aimerais bien que tu nous barres un peu par cette porte d'entrée-là. J'en ai une comme une autre, hein. Tu peux choisir une autre porte d'entrée, je te laisse libre. Hein. Mais je me disais que c'était une manière comme une autre d'entamer le débat, surtout que cette notion de sidération par rapport à la police, on l'a tous plus ou moins connue à un moment donné.
Alors, ce que j'ai voulu dire par là, c'est que la sidération, pour moi, englobe plusieurs choses, et notamment presque la folie. Puisque ça rend fou en fait, ça rend fou de voir que ces violences policières, aujourd'hui plus personne ne peut les nier en fait, puisqu'elles sont documentées, il y a des journalistes, il y a des jeunes des quartiers qui depuis quelques années se mettent à filmer les policiers dans l'exercice de leurs fonctions. Il y a des témoignages, il y a les familles qui le répètent depuis des années, avant nous même. Sidérant dans le sens où le pouvoir qui est mis en place est fait en sorte que cette police bénéficie de cette impunité, bénéficie de largesse de la part de la justice, de bienveillance, sidérante dans le sens où on criminalise les victimes à titre posthume dans la majorité des cas, et même dans les mouvements sociaux, notamment aussi avec le mouvement des Gilets jaunes, qu'on criminalise aussi, mais c'est quelque chose qui existe depuis des années, et j'ai l'impression qu'on ne va jamais s'en sortir si on ne prend pas à bras-le-corps cette question. Et en fait, on ne doit rien attendre de ces gouvernements, que ce soit de gauche ou de droite, peu importe. En tous les cas, il y a une volonté à ce que cette police agisse comme ça. Il y a une volonté de minimiser cette violence. Voilà, pour moi, le sens du mot sidérant.
Tu abordes aussi quelque chose dont on vient de parler tout à l'heure et que tu abordes dans ton livre aussi, c'est les notions liées. Tu dis à un moment donné, tu mets sur le même plan le corporatisme des policiers et leur impunité. Hein, les deux sont liés ensemble. Moi, j'ai fait mon interprétation personnelle en disant que c'est les deux mamelles de la police. Mais c'est pas ce que tu écris, mais c'est pour, de manière mnémonique pour moi. Et il y a des conséquences à tirer de ça, parce que ça explique aussi le comportement, je dirais, totalement libéré, qu'on voit chez un nombre de policiers, et que pas uniquement en manifestation. Il est bien clair que là, on ne parle pas uniquement des manifestations de rue, mais qu'on parle aussi de la vie des citoyens en général, où qu'ils habitent, et en plus dans certains quartiers, bien évidemment, mais au-delà de ça, c'est effectivement l'attitude de la police en général et cette notion d'impunité. Et ça, tu dis, tu donnes à la partie de ton article, du livre, un tour un petit peu de réflexion, toi, sur ton environnement, les solidarités, comment résister, comment se projeter. Et comment passer, y compris le deuil de ceux qui disparaissaient dans une forme d'anonymat. Et je pense que c'est un des moments forts, hein, de ce que tu écris, et peut-être tu peux nous en toucher un mot de ce chemin parcouru à ce niveau-là.
Alors, il y a tellement de choses à dire. Donc, le corporatisme et l'impunité, bien évidemment, qui sont liés. Ils sont liés puisque moi, depuis la mort de mon frère Amin Bentounsi, qui a été tué d'une balle dans le dos, le 21 avril 2012... Depuis que j'ai appris que c'était une balle dans le dos, et depuis ce combat que je mène et la démonstration qui en a été faite au tribunal lors du procès de Damien Saint-Boudjian, ce policier qui a tué Amine, tous les éléments étaient là pour nous dire que il y a corporatisme, bien évidemment, mais il y a aussi la protection de nos dirigeants politiques qui accordent même des faveurs à ces policiers. Et on remarquera aussi que dans la majorité des cas de policiers qui ont été mis en cause dans des affaires de crimes policiers, de meurtres, parce que ce sont des meurtres, parce qu'il faut le vouloir, hein, de tuer un homme de ses propres mains. Donc là, je pense à la clé d'étranglement. Et je me souviens de cette phrase de ce policier qui avait dit « Nous, quand on tire, on ne nous a pas appris à blesser, on nous a appris à neutraliser. » Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Quand ils sortent leur arme, c'est pour tuer. Neutraliser, c'est pour tuer. Et puis il faut voir aussi quand ils s'entraînent. Quand ils s'entraînent, c'est un buste qu'ils ont devant eux. C'est pas des jambes, il n'y a pas le corps d'un homme en entier. Donc c'est des points vitaux. Donc cette phrase m'avait particulièrement marquée. Donc déjà, ça voulait dire que ce policier qui était en train de remettre en question, qui voulait se défendre en fait, par cette phrase, il s'est trahi tout simplement. Et dans la majorité des cas, on essaye de trouver des excuses, on essaye de trouver des circonstances atténuantes à ces policiers. Mais dans la majorité des cas, ces policiers, quand ils sortent leur arme, c'est pour tuer. Quand ils pratiquent une clé d'étranglement, et quand ils vont jusqu'au bout, donc jusqu'à la mort, c'est pour tuer aussi. Nous, à travers la page du collectif, on reçoit énormément de messages de jeunes qui nous racontent en fait leur expérience dans un commissariat et qui nous disent on s'est entraîné sur nous comme des petits chats, quoi, comme des petits animaux, où tu as des policiers qui comptent. Qui comptent et qui. Parce qu'ils la connaissent, la limite. La limite pour tuer un homme. Et donc, on a ces jeunes-là qui sont désemparés et qui, les seuls à qui ils peuvent faire confiance et à qui ils peuvent témoigner, c'est le collectif, parce qu'on est passé par cette douleur et on essaie de les accompagner comme on peut. Avec nos drames, avec nos souffrances aussi.
Merci Amal. David, tu as envie d'ajouter quelque chose?
J'ai envie de prendre ta place. Juste une seconde.
Mais tu as le droit.
J'allais vous dire, mais vous venez de l'entendre. Je pense que dans ce petit bouquin, le texte d'Amal est probablement le plus viscéral, le plus poignant, le plus vrai. Et il y a une phrase que je recherchais pendant que tu parlais, et je pense que ça vaudrait le coup qu'Amal nous explique ce qu'elle a voulu dire à propos de la folie policière. Page 80, c'est une phrase. La folie policière est la faiblesse de ce système et c'est pour cela qu'elle est si protégée. Je trouve que c'est une phrase qui est très forte dans le sens où tout d'un coup, la police ne devient plus quelque chose de fort, de puissant, mais qu'au contraire, si j'ai bien compris, un maillon faible et dont tu dis qu'il est surprotégé. Voilà. Et je trouve que rien que pour cette petite phrase, moi, je te remercie pour ton texte. Est-ce que tu veux en dire plus ou on passe à autre chose et puis...
Alors, la folie policière, bien évidemment que... C'est la folie de tous les hommes, parce que avant tout, ce sont des êtres humains. Et ceux qui nous gouvernent et ceux qui les protègent sont des hommes aussi. Et moi, je crois que j'ai frôlé aussi à un moment donné cette folie dont je parle. Parce qu'on se... Il n'y a pas grand-chose pour passer le cap, pour devenir un monstre, parce que je me suis vue devenir un monstre aussi en même temps. En même temps que je menais ce combat, je m'explique dans le sens où moi, il était clair qu'à un moment donné, et puis ça, je m'en cache pas, je le dis aussi dans le livre, qu'à un moment donné, si je n'obtenais pas justice, je me faisais justice moi-même. Ça, c'était clair et net. Heureusement pour ce policier, heureusement pour le combat, heureusement qu'il y a eu justice. Parce que je devenais un monstre froid, silencieux, qui préparait mon coup, en fait. J'en parlais à personne. mais je m'accrochais en même temps, parallèlement, je menais deux combats, ce combat contre moi-même et ce combat pour essayer d'obtenir un semblant de justice, ce qu'on a obtenu, une justice en demi-teinte. Et quand je parle de folie, oui, c'est la folie des hommes, c'est la folie de ceux qui protègent cette police, et c'est la faiblesse de ce gouvernement, la faiblesse de ce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas changer les choses, en fait. Puisque ça fait plus de 30 ans qu'on parle de crimes policiers dans les quartiers. Moi, il y a quelques années, je disais, je me souviens, la première intervention que j'avais eue, c'était à Toulouse, d'ailleurs, devant le public. J'avais été invitée par Attaque et on me regardait un peu, mais qu'est-ce qu'elle nous raconte quand j'avais monté le collectif? C'était en 2013 et je disais, vous savez, les quartiers ont servi de laboratoire à cette violence. Si vous continuez à nous regarder sans rien faire, à un moment donné, c'est vous qui serez touchés. Et ça, c'était en 2013. La preuve en est, en 2015, à partir de 2015, pendant les mouvements sociaux, il y a une répression féroce des mouvements sociaux et qu'aujourd'hui, tout le monde est concerné. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'on soit unis et qu'on essaye d'avancer ensemble et essayer de trouver des solutions ensemble.
Merci Amal. Tu voulais rajouter un mot, Paul, ou on passe à la salle?
Oui, je peux rajouter deux, trois mots. Je pense qu'effectivement, cette question du pouvoir et de la manière dont il utilise les violences policières, c'est une question évidemment très importante. Tout à l'heure, je disais qu'il faut comprendre les armes non létales en tant que telles et la manière dont elles façonnent le comportement des policiers. Mais il est clair, évidemment, que ce choix technique des armes non létales, il ne tombe pas du ciel. Il fait partie d'un projet politique bien précis. Et si on schématise un petit peu, un État, pour se maintenir, il a besoin d'agir par un mélange de consentement et de force. Le problème de la force, c'est que quand elle s'applique à un grand nombre, ça conduit à affaiblir la légitimité de l'État ou à minima d'un gouvernement. On peut toujours être violent avec une partie, d'autant plus si elle est totalement marginalisée et discriminée. Mais il ne faut pas que ça se voit trop. Et c'est de ce point de vue-là aussi qu'une des choses que je mets en avant dans mon livre, c'est l'idée que les armes non létales, finalement, ce sont les armes de l'ordre néolibéral, puisque la difficulté est la suivante. L'ordre néolibéral, c'est un peu la revanche de la classe dominante. Faut répartir les richesses autrement, des pauvres vers les riches. Sauf que ce projet, évidemment, il est très impopulaire. En tout cas, il est propice à générer de la contestation. Sauf que le problème est du coup que la répression, si elle est trop féroce, si elle est trop violente, ça va affaiblir la légitimité d'un gouvernement. Donc le choix de recourir de plus en plus à des armes non létales, c'est le choix de la fuite en avant technologique. C'est pour éviter de changer de cap politique qu'ils ont introduit les armes non létales qui sont évidemment enrobées de tout un discours euphémisant. Et on parle de grenades de désencerclement, on parle de balles de défense, on parle d'armes non létales. Voilà. Donc on a un discours euphémisant au moment où le flashball a été introduit, un grand journal quotidien a titré « C'est l'arrivée des balles en mousse ». C'est presque ludique. Et donc, c'est effectivement, si ce n'était pas aussi grave. Donc là, on a effectivement cette fuite en avant technologique qui était censée permettre la répression en douceur. Le fait est que Le nombre de blessés, il n'a cessé d'augmenter, et particulièrement ces dernières années. Donc effectivement, ça s'est généralisé du coup à une plus grande partie de la population. Et ce qui est marquant aussi, c'est que cette période-là du recours massif aux armes non létales, c'est aussi la période de la généralisation de l'autodéfense populaire. Les manifestants, maintenant, ils viennent équipés. En tout cas, celles et ceux qui osent encore venir. Et je pense que là aussi, il y a des choses à dire sur les pratiques des manifestants qui ont changé. Et une chose est très claire quand on lit les rapports de l'IGPN et de son équivalent à la gendarmerie, c'est qu'ils sont conscients du fait que quand les gens viennent en foulard, quand ils portent un casque, quand ils portent des lunettes, eh ben, effectivement, ça atténue les conséquences des armes non létales. Alors, pas totalement, mais ils sont conscients de ce fait, et c'est pour ça aussi que dans ces rapports, on lit en fait que la police des polices, la gendarmerie des gendarmeries sont très embêtés par cette pratique-là, ce qui explique aussi pourquoi la répression s'abat sur les personnes qui se protègent et a fortiori sur ceux qui les soignent en manifestation, par exemple.
Merci Paul et merci aux trois intervenants. Donc on va passer à la séquence. À la séquence d'échange avec vous, un peu comme on a l'habitude, faut essayer de faire des interventions courtes, mais en même temps, on aime bien les interventions argumentées. Donc, à vous de choisir la bonne forme, hein, pour dire ce que vous avez à dire. Donc, on est là pour l'échange et on n'est pas là uniquement pour répondre aux questions. Vous avez le droit de développer un peu des points de vue quand même. Voilà. Donc, je vais essayer de... Tu fais circuler le micro ? Ouais.
Donc, moi, je note... Je note les intervenants.
Hein. Merci de parler près du micro. Et si vous pouvez utiliser le masque. Voilà. Merci.
Bonjour. Alors, déjà, merci beaucoup pour ce débat très intéressant. J'ai deux questions pour Paul. Alors déjà, tu as montré assez clairement que l'usage d'armes non létales en France avait augmenté la brutalité et la violence. Donc en fait, je voulais savoir qu'est-ce que tu préconises en fait ? Qu'est-ce que tu penses qui pourrait mieux marcher ? Est-ce que des armes encore moins létales, ça favoriserait pas encore plus de violence ? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aurais vues à l'étranger qui marchent mieux ? Je voulais savoir si tu avais une idée sur la question. Est-ce qu'on peut vraiment se passer d'armes aussi ? Et mon autre question, c'est vraiment, je suis pas sûr d'avoir bien compris, mais tu as dit que tout le monde pouvait être considérés aujourd'hui par la police comme des casseurs, en fait. Et je veux savoir, qu'est-ce que tu entendais par là ? Pourquoi quelqu'un qui vient manifester, en fait, pourquoi n'importe qui vient manifester pourrait être considéré comme un casseur ? Voilà.
On peut... Fabrice, on peut prendre deux ou trois questions d'affilée ? Il y a le monsieur au chapeau, là-bas.
Bonjour. Un moment, vous avez dit, on les encourage à utiliser les armes non létales, en fait. Et du coup, je me pose la question, est-ce que vous avez des idées, en fait, les politiques, les formateurs, les syndicats, les hiérarchies, je pense qu'il y a un petit peu tout ça, mais est-ce que selon vous, vous auriez une idée un petit peu de qui dans cette liste, pour les forces de police, c'est le plus important. Qui les motive le plus pour quand c'est un politicien qui les soutient, ou alors quand c'est leur hiérarchie qui leur dit, qu'est-ce qui les touche le plus, qu'est-ce qui les rend le plus qu'est-ce qui les fait s'autoriser, qui a l'argument le plus fort en fait à les utiliser en fait.
Bonjour et merci de vos témoignages et toutes mes condoléances pour la dame, je ne savais pas. Donc, je suis Christophe, SDF à tous depuis un certain moment. Et moi, je suis témoin de pas mal de choses dans mon quotidien, évidemment. Mais je ne me suis pas vraiment, pour être sincère, pas mis dans les mouvements parce que j'ai déjà assez de soucis comme ça à régler mes trucs. Et j'ai mon point de vue également. Et ce que vous m'avez dit concernant... je crois que c'est madame qui a dit que tout le monde était des êtres humains. Je ne me suis pas braqué contre la police et j'écoute. J'essaie d'avoir du discernement. J'aimerais quand même soulever le fait qu'effectivement, j'ai écouté aussi des forces de l'ordre pour voir un petit peu ce qu'ils pensaient. Je suis un peu ignorant par rapport à tout ce que vous avez évidemment étalé dans vos livres. Je ne les ai pas lus, j'espère les lire. Tout ça pour dire qu'effectivement, ils sont dirigés, ils ont des consignes. Quelques-uns ont plus de cœur que d'autres, je sais pas, plus d'intelligence, je ne sais pas comment on peut dire. Et j'en ai vu qui faisaient très bien leur fonction, comme j'en ai vu qui étaient bêtes et disciplinés. Voilà. J'ai été moi-même victime de pas mal de choses. Je pourrais faire un bouquin, c'est certain. Et pourtant, j'ai jamais été violent. Bon, après tout, il faut tout pour faire un monde, mais là, c'est vrai qu'il faut se révolter, mais la bonne révolte, quoi, par l'intérieur et non pas se liguer contre les forces de l'ordre, parce que c'est un truc sans fin. Faire avec les gens qui s'y connaissent en droit, comme vous et d'autres, voilà, et s'unir, voilà, je pense. Alors, j'ai une question, où vous en êtes tous les uns les autres ensemble dans vos collaborations pour avancer et puis aussi pour la diffusion aussi des informations, parce que moi j'ai pas internet par exemple et des fois je me sens un peu orphelin, voilà.
Paul, tu réponds, t'as été interpellé,
si je puis dire. Ok, oui, je vais commencer à pas répondre un petit peu. Alors merci pour vos questions. Alors, ce qui me semble important à propos de qu'est-ce qu'on peut faire avec les armes, est-ce qu'il y a des exemples à l'étranger, ce qui me semble central, et ce que j'essaie d'argumenter dans le livre et aussi de documenter, c'est que c'est effectivement l'arme même qui produit un recours croissant au tir, au coup. Et de ce point de vue, en fait, il n'y a pas vraiment de meilleur encadrement de ces armes possibles. Il me semble que, à partir du moment où l'arme, sa disponibilité est en question, on peut pas réellement changer son utilisation. Et si vous avez suivi un peu l'actualité, Darmanin a annoncé que il y aura un encadrement plus strict du recours au LBD 40, donc aux balles en caoutchouc. On ne sait pas grand-chose sur cette proposition, mais ce qui est sûr, c'est que à partir du moment où un tir est différé dans le temps, il n'a plus beaucoup d'intérêt. Si le policier qui a le LBD doit attendre 10 minutes pour avoir son feu vert, en fait, la situation aura changé et tout ça n'aura plus aucun sens. Donc, de ce point de vue-là, fonctionnellement... Je ne sais pas ce que ça veut dire, attendre le feu vert d'un supérieur. Soit ça vient immédiatement parce que la personne est derrière, la personne qui tire le fusil. Soit cette proposition, en fait, elle ne sera pas réalisée. Donc, de ce point de vue-là, la seule proposition qui me semble permettre d'apaiser les tensions, c'est le désarmement de la police. On parle effectivement en France depuis un petit moment d'exemples à l'étranger, notamment cette idée que en Allemagne ce serait une désescalade, qu'il y aurait des pratiques policières différentes. Sauf qu'en réalité c'est pas comme ça que ça se passe en Allemagne. Effectivement, en Allemagne il y a cette recommandation de désescalade. Sauf qu'il faut en fait ne pas seulement se pencher sur les textes, sur les lois, sur les recommandations, il faut se pencher sur la réalité, sur les pratiques. Et ce qu'on constate en Allemagne, c'est que il y a effectivement des policiers qui font de la communication, sauf que les manifestants ne les écoutent pas. Il y a des policiers qui font des contrôles, qui restent tout près des manifestations, des choses qu'on considère liberticides en France, des choses qu'on a vues depuis quelques années. Donc, il y a tout un tas de pratiques. Et d'ailleurs, dans mon livre, je dédie quelques pages à cette question-là. Et il y a un chercheur allemand qui s'est penché sur les pratiques policières et qui dit que finalement, la désescalade, c'est un peu un mot fourre-tout. Et ça peut aussi cacher les pratiques policières les plus violentes. Et si vous regardez un peu les dernières grosses mobilisations en Allemagne, c'est effectivement ça, c'est que la police allemande, elle est très violente aussi, mais elle crée moins de blessés. Et là, effectivement, on peut faire un lien avec l'armement. La police allemande, sauf dans un État fédéré, ne dispose pas de balles en caoutchouc, ne dispose pas de grenades. Donc elle est beaucoup plus désarmée que son équivalent en France. Et de ce point de vue-là, le désarmement me semble effectivement la seule manière d'apaiser les tensions. Et j'ajoute à ça, et ça c'est une petite proposition que je mets en avant dans le livre aussi, j'ajoute à ça l'idée de contrôle populaire de l'armement. Donc il ne faut pas seulement... un désarmement à un moment T, mais il faut aussi s'assurer dans la durée que l'équipement policier ne redevienne pas à nouveau plus dangereux. Et on pourrait peut-être élargir la question des armes à celle des différentes techniques d'immobilisation. Alors sur le point, qu'est-ce qui encourage les policiers à tirer plus et à tirer plus vite ? C'est peut-être un peu compliqué, un peu difficile à cerner parce que c'est abstrait, mais ce que j'essaie de développer, c'est que c'est l'outil en tant que tel. C'est à partir du moment où on vous met entre les mains des grenades non létales, un fusil non létal. En fait, ce qui va de pair, c'est pas seulement cette idée qu'on vous a transmis un objet, mais c'est une pratique que vous pouvez faire de cet objet-là. Étant donné qu'on vous suggère que de toute façon, l'arme est non létale, qu'elle n'est donc pas dangereuse, eh ben, ça vous transmet l'idée que vous pouvez tirer sans qu'il y ait de conséquences. Donc ça déresponsabilise les tireurs. Donc vous avez cette dimension de l'arme, de l'objet technique en tant que tel, qui ensuite, effectivement, peut être encouragé par tout un discours autour de l'impunité, autour de votre chef d'unité qui vous dit que là, vous avez des casseurs en face, donc vous pouvez leur tirer dessus. Donc vous avez tout un discours qui enrobe ça. Mais le problème fondamental, c'est déjà l'objet en tant que tel, parce que cet objet-là façonne, change le comportement des humains qui l'utilisent. Donc, je vais peut-être... Ah oui, il y avait une question sur le lien entre casseurs et manifestants. Alors, déjà, moi je n'utilise pas le terme de casseur, mais c'est la police qui l'utilise et le ministère. Mais l'idée est que, à partir du moment où une personne n'est pas parfaitement identifiable, qu'elle porte un tel ou tel objet, elle peut être considérée comme casseur. Et donc, à partir de ce moment-là, effectivement, la police se sent légitime d'interpeller, voire de mettre en garde à vue, ou à minima de confisquer des objets. Sauf qu'il faut bien mettre en avant, et je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a observé ces dernières années, c'est que le recours croissant aux armes non létales, finalement, conduit à la politisation des blessés. Et on a effectivement maintenant sur le territoire des collectifs autour des mutilés, des blessés, et à travers cette question-là, on politise donc la santé et les armes. Et voilà. Et du coup, j'ai répondu aussi un peu à la question de monsieur à propos de cette idée que concrètement, ce qui me semble pertinent aujourd'hui, c'est de revendiquer effectivement un désarmement des forces de l'ordre, alors que le gouvernement fait tout le contraire. Mais je pourrais dire plus sur ça plus tard.
Alors moi, je reprends la parole pour répondre à ce monsieur qui posait la question de savoir où nous en sommes aujourd'hui. Alors pour ma part et pour notre part, donc je parle au nom aussi du collectif. Nous, on a conçu une application qui s'appelle UVP, Urgence Violence Policière. Cette application, en fait, elle permet aux utilisateurs de filmer directement la scène s'ils constatent qu'il y a ou peut-être que ça peut que la situation peut se dégrader avec et qu'il peut y avoir violence lors d'un contrôle ou même si on est témoin, donc pour nous-mêmes mais aussi pour si vous êtes témoin. Donc ça nous permet de nous envoyer les images sur nos serveurs directement. Et donc la personne, elle s'identifie avec un email. Nous, on analyse la vidéo. Donc tous les jours, on regarde. On voit s'il y a violence avérée, si on voit que le portable a été arraché. On essaie de rentrer en contact avec la personne qui nous a envoyé les images. Et quoi qu'il arrive, en fait, si par exemple le policier, parce que dans la majorité des cas, parce que le constat qu'on en a fait et d'où la création de cette application, c'est que dans les quartiers, beaucoup de témoignages où des gens nous disent « j'ai filmé, mais le policier est venu et a cassé mon portable ou a pris mon portable, a effacé les vidéos ». Et l'idée, moi, m'était venue, c'est quand j'avais rencontré la femme d'un monsieur qui avait été tué à Pantin. Et j'avais rencontré un jeune homme qui avait filmé et il m'a dit, en fait, le policier m'a pris mon portable et j'avais tout filmé. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, donc avec les nombreux témoignages qu'on a depuis des années maintenant, comment on s'organise, qu'est-ce qu'on fait, puisque les caméras de télésurveillance, dans la majorité des cas, ne fonctionnent pas quand les familles réclament les caméras. Par contre, pour les manifestants, elles fonctionnent très bien. Quand on a envie de les mettre en tôle, ça, il n'y a pas de souci. Les caméras piétons, n'en parlons pas, puisqu'elles sont actionnées au bon vouloir des policiers. Donc on a voulu pallier à ce manque institutionnel et s'organiser par nous-mêmes, une espèce de surveillance citoyenne. Et le constat qu'on en fait depuis, parce que l'application existe depuis le 11 mars, début du confinement. Et le constat qu'on en a, c'est que dans la majorité des vidéos, donc on en a quelques-unes où on voit des violences, mais dans la majorité des cas, les gens qui filment, et dès qu'ils disent qu'ils filment avec l'application UVP, on sent le changement de comportement vis-à-vis de ces policiers. Et c'est ça qui est le plus flagrant, en fait. Et c'est quand même intéressant, en fait. Donc, on fera un bilan de tout ça dans un an, à peu près. Mais en tous les cas, c'est intéressant de savoir qu'eux sont surveillés et qu'il y a une surveillance citoyenne qui existe. Donc, elle a été téléchargée à plus de 55 000 fois. Donc, elle n'est pas encore bien connue, mais n'hésitez pas à en parler autour de vous. Ça s'appelle UVP, elle est gratuite. Elle est disponible sur Android et Apple, mais il y a d'autres moyens de la télécharger par APK, je crois. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas trop... le reste, mais voilà, elle est téléchargeable de différentes façons. Et donc, n'hésitez pas à en parler autour de vous, n'hésitez pas à être vigilant quand il y a un contrôle, parce qu'on ne sait pas comment ça peut se terminer, en fait. Et n'hésitez pas à intervenir, même si au détriment même si ça vous coûte une nuit de garde à vue. Mais dites-vous bien que peut-être que vous allez sauver une vie, quoi. Donc, si vous voyez qu'il y a une pratique de la clé d'étranglement ou un tabassage, vraiment, n'hésitez pas à intervenir. Donc, nous, les conseils qu'on donne aussi pour filmer, c'est quand vous filmez, ne pas insulter, parce que c'est des images qu'on vous remettra et qui pourront vous servir devant la justice. Donc, dès lors qu'il y a des insultes, ça peut être considéré comme outrage et rébellion. Donc, les images pourraient se retourner contre vous. Donc, l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de garder son calme, même si c'est pas évident. Garder son calme de façon aussi à ce qu'on puisse entendre les échanges qu'il peut y avoir entre ces policiers. Parce que ça, c'est important aussi dans les enquêtes. Donc, garder son calme. Pas le silence, mais au moins de pas trop crier et de façon aussi d'essayer d'interpeller aussi les gens qui sont autour, de demander aux gens qui sont autour de vous filmer, en train de filmer aussi, parce que ces images-là pourront aussi servir. Et n'hésitez pas à donner votre nom aussi, de façon à ce qu'on puisse rentrer très rapidement s'il y a vraiment quelque chose de grave. Donc voilà, c'est pas la meilleure des solutions, mais c'est une des solutions pour essayer de leur imposer cette surveillance, puisque eux nous surveillent, donc à nous aussi de les surveiller, en fait, quelque part. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.
Difficile d'être une parole sans visage, hein, n'est-ce pas? C'est pas contre la précision du masque, mais ça raconte beaucoup. Quand on survit aux violences policières, quand on y survit, on est face aux violences judiciaires. Et actuellement, donc c'est vraiment le phénomène qui découle de la répression de la dictature. Et là, on est encore plus dépossédé, puisque la visibilité est un problème pour en rendre compte, pour rendre compte des injustices. Donc la violence policière, c'est beaucoup en garde à vue, c'est-à-dire cette prison temporaire, ce lieu d'humiliation, qui est la preuve caractérisée que la présomption d'innocence n'existe pas, puisque sinon, ce serait des lieux dignes. Or, ce sont des lieux d'humiliation. Et donc, les violences judiciaires sévissent actuellement dans une invisibilité qui rend en fait les personnes qui en sont victimes encore plus esseulées, je dirais, que dans l'espace public d'une manifestation. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quand elles interviennent non plus. On vient vous chercher chez vous, on n'a même pas le temps de communiquer le fait qu'on va disparaître, on ne sait pas combien de temps. Donc ça, c'est quelque chose qui devrait être directement traité également et réfléchi, articulé, et où les moyens de défense doivent se penser. Je suis surprise que dans toutes ces analyses pertinentes n'intervient pas le fait que la violence policière, ce sont de façon claire et hégémonique des policiers. C'est-à-dire que la violence, c'est une violence masculine avant tout. Et ça, c'est dans la pure lignée des violences du patriarcat capitalisme, puisque dès qu'on est dans un entre-soi masculin, que ce soit la police, que ce soit la gendarmerie, que ce soit même les pompiers et que ce soit l'armée, eh bien, c'est immédiatement facteur de violence. Et ce n'est pas une observation de bas de page. C'est une chose qui est structurante. Donc, quand on a un entre-soi masculin, on est dans une surenchère de violence. C'est toujours, toujours, toujours le cas. Voilà, le virilisme est sa composante. Et ça, ça devrait apparaître comme étant le facteur premier des violences policières. Ensuite, évidemment, la question de l'armement et du fait que s'il n'y avait pas d'armes, il n'y aurait pas de morts ou tellement moins, nous doit ramener directement à la question de la démilitarisation. Donc là-dessus, évidemment, il y a tous les travaux d'André Michel, une femme, une féministe, voilà, et où la question de la militarisation est très peu débattue et on est très peu dans la phase de l'action directe de désarmement. Mais ça y participe, me semble-t-il. Donc je rejoins ce que vous avez dit, madame, juste avant que je prenne la parole, qui était de s'organiser, en fait, d'avoir d'organisation avec des équipes de captation et des équipes d'intervention qui leur sont associées. Puisqu'en fait, quand on est face à une violence qui se passe sous nos yeux, qu'est-ce qu'on fait? On la filme ou on intervient physiquement? Et c'est un vrai problème. Parce qu'en fait, on est pris dans le regard scopique. On ne sait pas si, voilà, le moyen de défendre, c'est d'interagir, quitte à être soi-même la victime des coups, des mutilations ou du meurtre, ou bien d'être le témoin via une captation. Et donc là, je ramène au combat des femmes iraniennes qui ont utilisé un mode opératoire qui s'appelle « My phone, my weapon ». Et donc, les femmes qui sont sans voile dans la rue, sans sac poubelle, donc se baladent comme geste d'insurrection. Et lorsque le voileur intervient, elles utilisent leur téléphone pour visibiliser ses injonctions et sa parole. Voilà, donc je pense qu'il va falloir penser à des choses techniques, stratégiques, activistes, de l'ordre qui permettent de visibiliser les huis clos des gardes à vue et de la prison, puisqu'en fait, les violences masculines s'exercent pardon, c'est un pléonasme, mais les violences policières, excusez-moi, s'exercent également au sein des cellules de merde et de pisse, que sont les gardes à vue, donc où on a affaire à des séances d'humiliation qui parfois créent de tels traumatismes qui ruinent également des vies, hein, puisqu'en fait, on a tous, quand nous y sommes passés, subi des violences qui peuvent mener au suicide, parfois, hélas, réellement. Donc, je ne sais pas si vous avez aperçu récemment la vidéo dans une garde à vue, là, par l'équipe avec un ami qui était donc le journaliste Atkaz, là, qui a été mis en garde à vue samedi. Et je ne sais pas comment ils ont réussi à passer la fouille. Ça, c'est un mystère. Mais en fait, il va falloir avoir des idées là-dessus, parce qu'il faut que les images sortent des paroles policières, des gestes policiers, des violences policières à l'intérieur de ces prisons et de la prison tout court d'ailleurs.
Ouais, bah, écoute, solidarité avec la jeune fille qui vient de parler, mais moi en fait c'est pas que ça, enfin, ça me dérange un peu et Thomas d'avoir éludé un peu sur l'extrême droite. Moi des fois ça fait longtemps que j'ai eu affaire. La première fois où j'ai foutu les pieds dans un commissariat, il y avait un Robocop avec une matraque au-dessus du, comme on dit, entre guillemets, un 13, entre 72 guillemets, une tête de nègre. C'est le premier truc que j'ai vu quand je suis rentré en commissariat. Je me suis fait une idée assez vite du truc, et puis je m'appelle Benyaïch, donc ça... C'est... Mais moi, il y a des moments où le mot de violence policière m'emmerde, parce que moi, j'ai affaire à de la violence d'extrême droite. Alors je... Enfin voilà, j'ai pas envie de politiser le truc, tu vois, non, enfin voilà, nonchalamment et tout, mais je suis désolé, au bout d'un moment, on a affaire à de la violence de faf. C'est de la violence d'extrême droite, point barre. Quand on a, sur France Culture, entendu des gens qui attendent une guerre ethnique, qui parlent des femmes comme des putes à juifs ou des putes à bougnoules, à qu'ils soient policiers, justement, que, comme l'a très bien dit madame, c'est des humains, on est tous des humains, hein, ça, j'ai la preuve du contraire. Ouais, donc c'est des humains, mais c'est des humains d'extrême droite qui appliquent une violence d'extrême droite, et c'est une violence d'extrême droite patentée. Et quelque part, est-ce que ça serait pas un peu utile, ou je sais pas, ou est-ce que ça serait peut-être un petit peu moins timide de qualifier ça de radicalisation d'extrême droite? Parce que moi, quand j'entends un mec sur France Culture qui dit qu'il vient de s'acheter un fusil d'assaut, enfin, on l'a entendu, hein, tous, je crois, enfin, tous, ceux qui ont écouté le témoignage du policier en question qui a lancé cette alerte-là. On n'a pas affaire à des policiers violents, on n'a pas affaire à des... On a affaire à des fanatiques d'extrême droite. Et je pense que dans un métier aussi difficile... J'entends que le métier de policier soit difficile. J'entends bien. Ils torchent la merde du monde, entre guillemets. C'est comme ça que j'imagine qu'ils décrivent un peu leur activité. Ouais, c'est compliqué. Mais quelle idéologie simpliste, facile... peut leur permettre de survivre dans ce milieu hyper violent, bah, évidemment, c'est le Rassemblement National, voire bien pire. Et récemment, je pense qu'on a eu l'expérience de voir des gens qui étaient bien pires que le Rassemblement National. Et je sais pas si c'est constructif ce que je dis, mais on a affaire à une vraie violence d'extrême droite. Point barre. Policier, pas policier. J'ai envie de dire non, c'est juste pas tolérable, quoi. On a affaire à des néo-nazis. Moi, j'ai fait des gardes à vue, j'ai fait des manifestations, je vis sur un terrain au fond des bois. Enfin, j'ai pas affaire à des policiers, j'ai affaire à des gens d'extrême droite. Et est-ce que c'est pas un petit peu à mettre un peu plus en avant, même si je respecte énormément vos analyses et que je les suis, et j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes depuis le début, et j'ai bien vu, effectivement, ce développement d'une doctrine qui était un peu fourvoyée, et, bah, un peu. Allez. D'une doctrine de merde. Mais surtout, voilà, on a une espèce de lâchage, on a une espèce de, je sais pas comment dire ça, de carte blanche qui est donnée à l'extrême droite, à laquelle on a... Parce que qui c'est qui se fait taper? C'est des femmes, c'est des gauchistes, c'est des arabes, et c'est des noirs. Et comme elle le dit, comme... Je sais plus exactement, j'ai pas pris de note, hein. Mais voilà, quoi. Moi, quand je suis passé en garde à vue, je m'appelle Benyaïch, on m'a traité de bougnoule, t'as vu ma gueule, de PD. Enfin, Voilà, donc on a affaire à des gens d'extrême droite, on a affaire à des nazillons, quoi. On n'a pas affaire à des policiers qui se, machin. On a de plus en plus affaire à des nazillons qui s'engagent dans la police. Et ça, je trouve un peu timide qu'on mette pas ces éléments de langage-là sur le tapis, parce que n'importe quel arabe aurait dit, dans la police, aurait dit « j'ai acheté un fusil d'assaut et j'attends la guerre ethnique », le mec, il serait au parquet antiterroriste. Là, on a des mecs qui sont encore en fonction. Alors que toute la France les a entendus déblatérer leur saloperie. Voilà.
Merci. Vous avez, vous laisse la parole, vous pouvez démarrer, David, vous pouvez démarrer.
Oui, alors je, juste pour préciser, c'est un détail, c'est pas France Culture, c'est Arte Radio, mais c'est pas grave. Effectivement, c'est un policier du commissariat de Rouen qui a rendu publique une boucle audio WhatsApp de ses collègues. Et donc on est voilà, enfin, qui veut peut entendre ça. Sur la question de l'extrême droite, alors évidemment, il y a des études qu'on connaît sans doute un peu toutes et tous ici, c'est-à-dire notamment les bureaux de vote autour de casernes de CRS ou de gendarmes mobiles, dont on a vu en effet que le vote Front National était plus fort qu'ailleurs, etc. Il est pratiquement clair, limpide, que les policiers voie publique portent plus extrême droite qu'extrême gauche. Ça semble évident. C'est moins clair dès lors que l'on monte, par exemple, en police judiciaire. C'est moins clair quand on monte chez les commissaires. Il y a des syndicats de commissaires qui sont pas loin de l'extrême droite, d'autres moins. C'est un petit peu plus compliqué. Et au fond, ce qui est plus gênant, c'est qu'on a affaire à une police qui applique des méthodes d'extrême droite sans être d'extrême droite, ni un régime d'extrême droite. Macron n'est pas d'extrême droite. Donc c'est là où ça devient extrêmement inquiétant. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de l'extrême droite au pouvoir pour avoir ce que vous avez dit. Donc au-delà, ce que je veux dire par là, c'est que ça ne peut même pas être une excuse ou un prétexte ou de dire ils sont d'extrême droite. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir les faits. Et quand on voit une police qui se cagoule, qui maquille ses plaques minéralogiques, qui fait des insultes, etc., donc qui se transforme en milice sous la République, puisque alors qu'il est, a priori, nous sommes toujours en état républicain, c'est là que, à mon avis, les choses sont plus graves que de savoir est-ce que la police est d'extrême droite. Elle peut appliquer des méthodes d'extrême droite. Non, mais c'est... Sur la question des huis clos de garde à vue et de la violence judiciaire aveugle, loin des micros, des caméras, en effet, depuis la loi sur la presse 1881, les caricaturistes ont le droit de rentrer dans un tribunal et de dessiner, mais une caméra ne peut pas venir filmer les comparutions immédiates. Il y a quand même des gens qui prennent des notes, des comités anti-répression, des chercheurs, des chercheuses qui me prêtent des notes. Malheureusement, ça ne sort pas beaucoup. Rien que dans les comparutions immédiates, on a un gisement de savoir. Je veux dire que rendez-vous, si un jour vous avez le temps, le lundi, quand c'est après les Gilets jaunes ou n'importe quand, rendez-vous dans les comparutions immédiates. Hein. C'est rendu au nom de tout le monde, la justice, c'est public. Il n'y a qu'à se baisser pour savoir, en fait. Mais effectivement, il y a très peu, parce que ce n'est pas possible légalement, il y a très peu de documents audiovisuels. Il commence à y avoir effectivement des enregistrements pirates, il commence à y avoir des bandes dessinées, il commence à y avoir des témoignages publics de gens qui ont le courage de surmonter effectivement les brimades auxquelles ils ont été confrontés et les insultes et les coups, etc. On n'est pas comme en Belgique ou aux États-Unis où les gardes à vue sont filmées. En Belgique, il y a eu une garde à vue qui a été filmée, qui très mal filmée, avec mort d'homme, dans laquelle on voit une policière, et c'est là où je voulais en venir, une policière faire le salut nazi. Et donc je voulais maintenant aborder la question des femmes dans la police ou de la violence, etc. Il se trouve que certains ministres de l'Intérieur ont eu la même analyse que vous, hein, c'est-à-dire en disant il faut féminiser la police pour baisser le niveau de violence. Sauf erreur de ma part, Cédric Chouviat, il y a une femme. Il n'y a pas que des hommes sur Cédric Chouviat, le livreur qui est mort. Sauf erreur de ma part, et j'en suis sûr, au dépôt de Paris, tribunal de justice, un policier, comme vous le savez, a courageusement dénoncé ses collègues. Aujourd'hui, il a l'IGPN aux trousses. On lui reproche de ne pas les avoir dénoncés assez vite ou de ne pas les avoir bien dénoncés. En attendant, les autres ne sont pas mis en examen ou quoi que ce soit. Si on lit les rapports de l'IGPN, ce sont deux femmes qui sont accusées, non pas de violence, enfin en partie de violence, mais surtout d'insultes, d'injures. Ce sont deux femmes. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas si net que ça. Non, mais vous pouvez prendre le micro, il n'y a pas de souci.
Juste sur... sur la question de l'extrême droite, je sais que dans l'ouvrage, Antonin Bernanos fait le lien direct qu'il y a notamment avec la milice d'extrême droite qui s'engage dans la police française. Et nous, d'ailleurs, à ce propos, en 2013, on avait fait la parodie du recrutement de la police française. Et parce qu'on s'était dit, mais c'est pas possible en fait. Le mec qui a envie de tuer des Noirs, des Arabes, des gauchistes, des zadistes, en fait, la bonne planque, c'est exactement ça, c'est la police française. Et dans cette parodie de recrutement, où je disais, vous voulez commettre des crimes en toute impunité, vous êtes violent, arrogant, méprisant, ne respectez pas le code de la déontologie, prêt à tuer sans être en état de légitime défense, engagez-vous dans la police française. Et ces propos m'avaient valu d'être poursuivi par M. Valls, ministre de l'Intérieur de l'époque. Ce procès, j'ai voulu en faire une tribune politique. J'ai fait intervenir des sociologues tels que Mathieu Rigouste, des familles de victimes, le comité Al-Iziri, la famille de Wissam El-Yamni, Farid, qui sont venus à la barre et qui ont dit... et c'était très étrange d'ailleurs ce procès, de me retrouver devant ces magistrats à répondre des accusations de diffamation et atteinte, je ne sais plus les termes, mais atteinte, voilà, et de me retrouver devant ces magistrats, alors même que le policier qui avait tué mon frère, on n'avait pas encore de date, et on ne savait pas ce qu'il en était. Donc du coup, je me retrouvais, moi, pour avoir exprimé des choses que je ressentais au plus profond de moi, devant les tribunaux, à répondre de cela. Donc là, c'était le monde à l'envers. Et à un moment donné, tous ces témoignages étaient forts de sens, forts en émotion, parce que quand les familles témoignent, c'est beaucoup d'émotion. Et vous savez, quand vous rentrez dans une salle d'audience, les magistrats, ils sont très hauts et vous vous sentez tout petit. Et là, c'était la première fois pour moi que je me sentais très haute face aux magistrats qui s'enfonçaient au fur et à mesure de nos témoignages dans le fond de leur chaise. Et ça, c'était juste ce sentiment-là, je le garderai à vie. Et à un moment, ils étaient presque ridicules d'être là, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai gagné mon procès contre Valls. Donc voilà.
Bravo à vous. Je vais répondre quand même à Monsieur Dufresne. Je me demandais si vous alliez oser. Eh bien, vous avez osé. Vous avez osé avoir l'argument de l'exception qui confirme la règle. Donc en fait, je vais revenir sur ce que j'ai dit parce qu'il semblerait que ça ait été mal entendu. Ce sont les chiffres, et les chiffres sont têtus, et le réel est têtu. Il y a, de fait, une hégémonie, une majorité masculine dans la violence du corps policier. Et ce que vous venez de dénoncer comme objection n'en est pas une. Pourquoi ? Parce que quand il y a une minorité de femmes à l'intérieur d'une majorité d'hommes, elles adoptent toujours, toujours la même attitude. Elles ne sont d'ailleurs là que parce qu'elles n'adoptent la même attitude. En revanche, et donc là je vous invite à vous instruire des analyses féministes, en revanche, lorsque nous arrivons à la parité, nous n'avons absolument plus jamais ces phénomènes. C'est-à-dire que c'est une question de pourcentage. En dessous de 30%, eh bien, l'attitude des femmes va se calquer pour être acceptée et pour pouvoir s'exercer sur celle des hommes. Donc, quand ça ne vient, ce que vous venez de mentionner corrobore en fait l'analyse du fait que c'est l'hégémonie masculine qui est créative de violence. Donc je vous ramène également sur le racisme policier et immonde et sur le sexisme policier qu'il ne l'est pas moins, bien au contraire.
Bonjour et merci beaucoup pour vos exposés qui étaient tous très intéressants. Moi je voulais revenir un peu sur la question de l'extrême droite, etc. Qui a été soulevé. Je pense qu'en fait de poser la question de dire que en fait les flics c'est juste l'extrême droite, ça pose, c'est un problème, ça invisibilise en fait le fait que c'est, enfin surtout leur fonction en fait. C'est pas juste des gens d'extrême droite, la police a une fonction dans l'État et on l'a dit, on l'a mentionné, c'est le bras armé de l'État, mais ça a des implications, c'est-à-dire que en fait, il peut pas y avoir. Enfin, la question de savoir s'il peut y avoir des bons ou des mauvais flics, ou des flics plus de gauche, ou des flics plus de droite, ou une police avec plus de femmes, etc. Pour moi, c'est un peu un faux débat parce que ça change pas que la fonction de la police, c'est d'exécuter en fait la politique d'État, qui est la politique d'un gouvernement bourgeois et qui va dans tous les cas réprimer en fait tous les secteurs les plus précaires, à commencer par les quartiers populaires, les femmes aussi, les gilets jaunes et tout ça. Les migrants également. Donc voilà, enfin, je voulais juste ramener ça et que en fait, du coup, je trouve que la question économique aussi, elle est assez absente du débat, parce que enfin voilà, les évolutions de la police dont vous parlez, pour moi, elle a, enfin, j'imagine aussi pour vous, un fondement économique. C'est aussi ça qui fait l'évolution, qui fait que la répression se durcit, etc. Et on voit que ces dernières années, c'est aussi la trame de fond, c'est une crise économique majeure post 2008 et tout ça. Depuis 2016, la répression qui se durcit, et aujourd'hui, c'est éminemment d'actualité, et à la fois pour comprendre, analyser la répression, mais aussi pour trouver des solutions face à ça. Et avec la crise qui est la crise actuelle et qui va s'accentuer, on en est qu'au début. On va voir que, voilà, évidemment, sa fonction, ça va être de réprimer toutes les possibilités d'émancipation et de réponse face à la crise, y compris dans le mouvement ouvrier. Enfin, on a vu les flics qui ont tabassé des grévistes pendant la réforme des retraites, enfin, la bataille contre la réforme des retraites, par exemple. Et voilà, et du coup, oui, pour arriver à la question du désarmement de la police, pour moi, c'est pas une solution. Enfin, c'est illusoire de penser qu'on peut obtenir un désarmement de la police, même si ça a pu arriver dans d'autres pays, c'est toujours le résultat de concessions qui sont possibles dans une certaine circonstance économique. Et actuellement, c'est pas le cas. Enfin, ça va pas arriver. Et pour moi, en fait, ça pose la question de justement se débarrasser du problème des violences policières, c'est se débarrasser de la police dans son entièreté. Et du coup, ça pose la question de changer de système profondément. Et c'est ça le défi qui se pose à nous en réalité aujourd'hui, si on veut faire face à ça. Voilà, je voulais juste amener ça.
Il y avait quelqu'un qui avait demandé la parole par ici. Ah oui, dernière intervention.
Oui, excusez-moi, je suis absolument désolé, je dois partir à 19h parce que je vais présenter mon film. J'aurais adoré continuer la conversation. J'espère que je reviendrai à Terra Nova et qu'on pourra discuter un peu plus longuement avec madame. Si vous saviez comme j'aimerais que les faits vous donnent raison. Je ne vous dis pas qu'ils vous donnent tort, je n'en sais rien. Ce que je sais de la police, c'est que l'esprit de corps et l'esprit de caserne est si fort qu'il peut faire mentir certaines règles mathématiques. Et que je ne suis pas sûr que les 30%, 40%, 50%, tant mieux si c'est le cas. Vraiment, je suis 100 fois avec vous, et j'en suis pas sûr. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu le même phénomène. Regardez les campagnes de recrutement de la police depuis 20 ans. Ils ont appelé ça la diversité. Regardez les affiches. Ce sont des femmes, des Noirs et des Arabes pour recruter. Est-ce que pour autant la police est moins violente ? Non, mais c'est ça, voilà. Je dis juste, à l'heure qu'il est, j'ai moins de certitude que vous, j'aimerais que vous ayez raison, mais vraiment en toute sincérité. Je n'en sais rien. Je dis juste que l'esprit de corps de caserne est extrêmement important dans la police. On voit très bien, il suffit de regarder en fait les démissions de policiers, de jeunes policiers, ça arrive très vite après l'école de police où ça n'arrive jamais. Parce qu'une fois qu'il y a une forme d'embrigadement, alors c'est particulièrement notable chez les CRS, les gendarmes mobiles, parce que là, c'est carrément des casernements, si vous voulez. Ils vivent ensemble. Donc là, c'est encore plus fort. Cet esprit-là, cette chose-là à laquelle on fait face de plus en plus, c'est-à-dire que plus nous sommes nombreux à observer la police, plus nous sommes nombreux à la critiquer, plus cet esprit de corps est renforcé, si vous voulez. Donc aujourd'hui, vous avez des chercheurs, des sociologues qui étaient acceptés il y a une dizaine, quinzaine d'années, qui ne le sont plus du tout, qui étaient parmi les plus modérés, on va dire. Donc voilà, pour répondre à la question de monsieur de tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ? Vous n'avez pas Internet, c'est pas grave, vous êtes ici, quoi. Et puis si vous n'êtes pas ici, bah, y a des bouquins. Puis s'il n'y a pas des bouquins, il y a des films, il y a des manifestations, il y a des observatoires. Et c'est ce qui est, me semble-t-il, assez extraordinaire en ce moment, pour étudier ces questions-là depuis très longtemps, c'est que jamais il y a eu des collectifs aussi forts, tenace que celui que représente Amal là ce soir, qu'il y a vraiment quelque chose qui est en train de se jouer, qui est extrêmement fort, et on voit très bien depuis quelques semaines, je dirais quelques semaines, la réaction extrêmement dure, martiale, dans la rue, dans les médias, par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup, je suis vraiment navré, je dois filer.
Merci à David, on a encore un petit quart d'heure, donc je vais prendre une rafale de questions. Je t'ai vu, j'ai vu quelqu'un aussi par là-bas. Il y avait une personne ici tout à l'heure, mais que j'ai perdue. Donc je vais te passer la parole et après on ira là-bas.
Ouais, vous avez fait une courte allusion à la militarisation du maintien de l'ordre. Je voudrais savoir qu'est-ce que vous entendez par là, parce qu'à ma connaissance, le maintien de l'ordre est déjà militarisé par le truchement des gardes mobiles qui ont, suivant les degrés de violence estimés, recours à des matériels militaires dans des blindés, par exemple. Donc qu'est-ce que vous entendez ? Qu'est-ce que vous avez pu déceler comme évolution sur la militarisation du maintien de l'ordre ?
Paul, je pense que c'est une question qui te concerne. Je vais prendre une autre question. Qui a demandé la parole ?
Alors moi, c'était plus pour revenir sur la problématique des quartiers populaires dont vous avez parlé. Comme vous disiez, la violence policière, c'est d'abord pendant des années défoulée dans ces quartiers-là, avant de s'élargir dans des sphères autres comme les manifestations de gilets jaunes ou différentes grèves qu'il y a pu avoir récemment. Donc en fait, je voulais avoir votre avis sur comment on intéresse ces populations qui sont les premières victimes de ces violences pour que celles-ci puissent s'organiser, trouver des moyens de se défendre. Parce qu'en fait, si je regarde autour de moi, c'est peut-être un peu un raccourci, on va dire. Mais les habitants des quartiers populaires sont majoritairement issus des minorités ethniques. Et autour de moi, j'ai pas l'impression de voir une forte représentation de ces personnes-là. Et du coup, je voulais savoir comment ces personnes qui sont les principales touchées, les premières touchées, comment on fait pour les agglomérer dans ce type de conférences, dans ce type de mouvement, pour pouvoir réussir à avoir la force du nombre, on va dire, puisque tant qu'on reste caché ou minorisé ou minoritaire, tant qu'il n'y a pas d'organisation qui soit suffisamment massive, on n'arrive pas à faire bouger les choses. Voilà, tout simplement.
Merci. Donc, Paul, Tu peux répondre sur la militarisation du maintien de l'ordre, puis j'ai à mal intervenir sur le sujet suivant.
Merci. En fait, je voulais répondre à plusieurs remarques qui ont été faites. D'abord, Madame derrière, alors premièrement, la référence que vous avez mentionnée, si vous pouvez me la donner plus précisément, je suis preneur. Ensuite, sur le fond de votre propos, il me semble que il faudrait dans ce cas démontrer que l'unité fonctionnelle de la reproduction du monde social qui nous entoure, que cette unité fonctionnelle, c'est le patriarcat. Et si c'est le cas, il faudrait interroger une deuxième chose, à savoir jusqu'à quel point des sous-systèmes qui sont à l'intérieur du patriarcat ont une autonomie propre ou pas. Et ce qui me semble important, c'est que quand on s'intéresse à la police, il faut précisément la prendre en tant que telle, en tant que sujet partiellement autonome qui développe ses propres pratiques et ses propres actions. Et je pense que de ce point de vue-là, l'hypothèse que la police serait uniquement l'instrument d'un système social donné est un raccourci, ou alors il faut le démontrer. Mais ça, c'est effectivement à creuser. Et c'est pour ça que votre référence m'intéresse. Ensuite, sur la question sur l'idée que désarmer, ça pourrait advenir quand on le veut, effectivement, c'est pas aussi simple que ça, et je suis d'accord qu'il faut un contexte qui soit favorable. Néanmoins, si on revient à cette idée-là, qu'il y a effectivement des moments de lutte, des moments de pression et des rapports de force. Et bien, les choses peuvent aussi basculer. Alors, je suis d'accord que ce qu'on voit très, très clairement, c'est que l'État s'arme de plus en plus. Tout à l'heure, j'ai fait une petite allusion à ça. Si on prend un rapport de la Cour des comptes, qui à nouveau utilise les chiffres du ministère de l'Intérieur, qui sont des chiffres très partiels, mais on voit quand même dans ce rapport qu'entre 2012 et 2017, l'armement non létal de la police a quasiment doublé. Donc, effectivement, les gouvernements misent sur l'armement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est impossible d'obtenir au moins des avancées partielles. Si vous prenez la ville de Seattle aux États-Unis, en 2 mois de mobilisation, le conseil municipal a voté l'interdiction des balles en caoutchouc et l'interdiction du gaz lacrymogène. Donc effectivement, il y a des avancées comme ça qui sont possibles et qui permettent un certain apaisement. Mais encore, voilà, je suis bien d'accord que tout ça n'est que partiel. Et c'est pour ça que le dernier chapitre dans mon livre s'intéresse précisément aux rapports sociaux qui font naître les violences policières, notamment. Ensuite, sur la question de la militarisation, ça rejoint un petit peu ce que je viens de dire. C'est qu'effectivement, ce qu'on voit... Alors, dans le livre, je propose un petit détour historique sur les armes non létales. J'identifie 3 grandes vagues où les gouvernements misent sur les armes non létales. Et c'est à chaque fois quand le gouvernement effectivement perçoit une crise du maintien de l'ordre. En ce qui nous concerne, nous, aujourd'hui, dans la période actuelle, ce qui est très frappant, c'est que nous vivons dans cette dernière vague des armes non létales qui a commencé dans les années 90 et qui a commencé précisément en banlieue. Et ce qu'on voit depuis l'introduction du flashball en 1995, c'est que les forces de l'ordre, que ce soit la gendarmerie ou la police, ont des armes non létales toujours plus diverses et toujours plus puissante. Donc ça, c'est les 2 traits un peu marquants de la période actuelle et qui ont une conséquence aussi très immédiate sur le comportement des forces de l'ordre. Puisque si vous êtes équipé en armes qui sont capables de traverser des distances toujours plus grandes, eh ben ça vous permet en quelque sorte de vous tenir à distance des manifestants, en quelque sorte en sécurité. Donc le risque des manifestants, c'est en quelque sorte la sécurité des forces de l'ordre, qui d'ailleurs ont aussi eu un équipement de protection de plus en plus important, si vous comparez un CRS aujourd'hui à son prédécesseur en 68, vous verrez la différence. Mais le fait est que à partir d'armes donc de plus en plus puissantes qui traversent un espace toujours plus grand, pour que les policiers exploitent au maximum l'avantage stratégique qu'une arme plus puissante procure, il faut qu'ils tirent plus vite pour maintenir justement cette distance-là. Maintenir cette distance-là, ça suppose donc de tirer non pas à partir d'intention manifeste de la part de quelqu'un qui serait dans la manifestation, mais ça suppose de tirer à partir de présupposés. Donc il y a cet élément-là qui incite, donc aussi, à nouveau on revient sur la disponibilité des armes en tant que telle, c'est la disponibilité des armes qui incite au tir précoce. Et alors effectivement, on a un retournement un peu curieux de la situation, au moins depuis 2016, où les forces de l'ordre se tiennent de plus en plus près des manifestants. C'est inspiré un peu directement des pratiques de désescalade à l'allemande. On voit bien que là, c'est en réalité une pratique qui amplifie la violence. Donc les forces de l'ordre se tiennent plus près des manifestants. Et pourtant, ils ont toujours leurs armes toujours plus puissantes. Donc là, en quelque sorte, on a une multiplication du risque potentiel pour celles et ceux qui sont exposés aux armes non létales.
Alors, sur la question, comment on intéresse les jeunes des quartiers, je ne pense pas que... les jeunes des quartiers sont désintéressés de cette question-là. Moi, je me souviens, il y a quelques années, quand j'avais monté le collectif et que je me promenais avec mes t-shirts, où j'intervenais et que je disais, parce que les t-shirts, je les ai jamais vendus, où les gens me demandaient si on voulait les acheter, mais pour moi, c'était, l'important, c'était que le message y passe. Urgence, notre police assassine. Quand j'ai choisi cette appellation, c'était pour que les gens n'aient pas à réfléchir, en fait, qu'on sache de quoi on parle, même si le terme assassine juridiquement, il faut qu'il y ait préméditation et tout ça, mais au-delà de ça, ça reste des assassinats, des meurtres. Et je me souviens de la réflexion de plusieurs jeunes qui m'avaient dit, mais madame, tu viens, toi, avec tes t-shirts, je sais par quoi t'es passée, on a tué ton frère, mais nous, la stigmatisation, la violence, on la vit au quotidien. Comment veux-tu ? Moi, je vais me promener avec ce t-shirt-là. Et le mec, il me dit, tu veux ma mort, en fait. Et quelque part, c'est vrai, puisque il y en a qui meurent pour ce qu'ils font, et il y en a d'autres qui meurent pour ce qu'ils sont. Donc, de dire ça, c'est pas opposé les uns aux autres. Mais c'est de comprendre la vie de ces jeunes des quartiers. Et s'ils sont pas là, c'est pas parce qu'ils sont pas là qu'ils n'ont pas conscience de cette problématique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a mort d'homme, à chaque fois qu'un jeune perd la vie, parce qu'il n'y a pas un quartier en France qui n'a pas connu son drame. Il n'y a pas un quartier en France qui n'a pas perdu un proche, un cousin, un ami, un père, un mari. Ils sont tous conscients de ce qui se passe. Mais pour eux, c'est difficile. Donc je pense que... Et aussi, c'est important de dire ça aussi, parce que pendant des années, ceux qui suivaient la page « Urgence, notre police assassine », c'était beaucoup... des noms à consonance africaine, maghrébine. Et c'est vrai que dès qu'il y a eu le mouvement des Gilets jaunes, de plus en plus, les noms ont changé. Donc on avait des François, on avait des Sophie, et qui avaient des discours beaucoup plus durs que ceux des quartiers populaires. Et un jour, je crois, il y a un gilet jaune avait dit « Mais pourquoi les quartiers ne se rallient pas à nous ?» Mais en fait, la réponse qu'il a eue, c'est « Mais vous nous avez regardé pendant des années nous faire taper dessus. Pendant des années, pendant qu'il y a eu les révoltes urbaines, vous avez essayé de savoir, d'essayer de justifier. » Mais pourquoi ? Bah aujourd'hui, vous y êtes, en fait. Et donc, c'est ça la réponse des jeunes des quartiers. Donc, je pense qu'il faut du temps, Il faut que, quand il y a, malheureusement, souvent, on attend qu'il y ait mort d'homme pour qu'il y ait des collectifs qui s'organisent autour des familles, mais que ça reste local, que ça reste au sein même du quartier, et qu'il y ait d'autres gens qui viennent nous aider. C'est ça, en fait, la solution. La solution, c'est que ceux qui ont envie que ça change et qu'on soit tous ensemble, eh bien, il faut aussi aller dans ces quartiers-là et voir la réalité et voir ce qui se passe. Moi, ça fait très longtemps que j'ai compris que la convergence, elle était importante, mais elle est difficile parce qu'on ne vit pas, on n'a pas vécu les mêmes drames. On ne vit pas la même violence. Je ne dis pas que la nôtre est beaucoup plus violente, elle est la même. Mais il y a des gens qui vivent la violence depuis qu'ils sont nés. Il y a des gamins qui se prennent dans la gueule. Espèce de sale négro, espèce de sale bougnoule à 10 ans. Et la première personne qui voit, c'est un policier. La police qui représente la République. Donc imaginez-vous ce gamin, comment il se construit. Donc au-delà de la violence physique, il y a aussi de la violence psychologique. Et c'est marrant parce que d'habitude, je ne le ramène pas à ce t-shirt. Et c'était le t-shirt que j'avais. C'est mon frère. Et derrière, j'avais mis Amine. Ce petit frère qu'on assassine. C'est l'histoire de beaucoup de jeunes de banlieue stigmatisés, parqués dans des ghettos ou en prison, tués socialement avant de l'être physiquement. Donc au-delà de l'affaire de l'histoire de mon frère Amine, c'est beaucoup de jeunes des quartiers qui vivent exactement la même chose.
Merci Amal et Paul. Donc on va clore et en espérant que les uns et les autres, par nos actions militantes, individuelles ou collectives, nous allons faire reculer un peu cette police et cet état autoritaire. Merci à vous. Et peut-être l'état tout court. Mais...
Radio Livre